Bonjour à chacune, à chacun. Je ne sais pas si dans votre lecture personnelle de la Bible, vous faites parfois face à un texte un peu fourre-tout. Un texte où vous ne savez pas trop quoi en faire, quoi en penser au final. En tout cas, moi ça m'arrive. Ça m'arrive et je vous propose justement ce matin de méditer un texte qui m'a semblé un peu fourre-tout, mais qui laisse en réalité transparaître la beauté de l'Évangile. Et on va lire ensemble ce texte dans l'Épître de Jacques, au chapitre 4, à partir du verset 1. Et pendant la lecture, qui sera peut-être un peu longue, n'hésitez pas à simplement écouter et laisser résonner ces paroles en vous. Nous lisons. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? Elles viennent de vos tendances égoïstes qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous convoitez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose et vous ne pouvez pas l'obtenir. Alors vous vous lancez dans des querelles et des guerres. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos demandes sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Vous n'êtes que des infidèles à Dieu. Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est encore plus grande. Car il est dit aussi, « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bienveillance. » Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos cœurs, vous qui êtes partagés vis-à-vis de Dieu. Soyez conscients de votre misère. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Frères et sœurs, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal de sa sœur ou de son frère, ou celui qui le juge, dit du mal de la loi de Dieu et la juge. Dans ce cas, tu te fais le juge de la loi au lieu de la pratiquer. Or, Dieu seul est législateur et juge. Il peut à la fois sauver et faire périr. Mais toi, pour qui te prends-tu donc pour juger ton prochain? Écoutez-moi maintenant, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. » Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et qui disparaît ensuite. Voici bien au contraire ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Si donc une personne sait comment faire le bien et ne le fait pas, elle se rend coupable de péché. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont s'abattre sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont couverts de rouille, une rouille qui servira de témoignage contre vous. Voyez le salaire des ouvriers qui travaillent dans vos champs. Vous avez refusé de le verser. C'est une injustice criante. Les plaintes des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles de Dieu. Vous avez vécu sur la terre dans le luxe et dans les plaisirs. Vous avez condamné. Vous avez mis à mort des innocents. Ils ne vous résistent pas. Amen. Un texte un peu fourre-tout, trouvez pas? Alors on va essayer de voir ensemble ce que Jacques, l'auteur de cette lettre, voulait bien vouloir dire à ses lecteurs et ce que ça peut vouloir nous dire à nous aujourd'hui. Et c'est vrai que ce texte nous impose d'emblée un constat difficile. Un constat qui s'imposait à l'apôtre Jacques. D'abord, Jacques constate que parmi les églises à qui il écrit sa lettre, il y a des conflits, il y a de la violence. Et tout ça, pourquoi ? À cause de la convoitise. C'est à cause de leur convoitise d'avoir ce que l'autre a, ou tout simplement d'avoir plus, toujours plus que ce qu'ils ont déjà, que ces gens sont prêts à en découdre, à devenir violents. Mais ce que Jacques relève ici, c'est vraiment la convoitise. Et on peut souligner deux types de ces convoitises qu'il souligne. Le premier, on l'a dit, c'est quand on a envie d'avoir ce que l'autre possède. Par exemple, j'aimerais avoir le t-shirt de mon frère, soit je peux simplement aller acheter le même, ou alors je peux tenter de prendre celui de mon frère. Je vais essayer de négocier avec lui, il va refuser, et je vais être prêt à me jeter sur lui, à me battre avec lui, à tout faire pour le récupérer. Et on comprend mieux peut-être ce que Jacques veut dire quand il dit « Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos demandes sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. » Le deuxième type de convoitise, c'est quand on a simplement envie d'avoir plus, toujours plus. Alors certains diront « C'est terrible aujourd'hui, on vit dans une société de consommation. » On est poussé à consommer, c'est la société le problème. C'est le monde le problème. S'il y a une part de vérité à ça, Jacques ne semble pas nous pousser à penser comme ça. Mais il nous pousse plutôt dans nos propres retranchements. Il nous pousse à regarder à notre responsabilité de créature, créée comme image de Dieu, avec les responsabilités qui nous incombent. Et on est aussi responsable de notre mode de vie, de ses conséquences sur notre prochain et sur le monde dans lequel on vit. C'est peut-être ça, finalement, ce que ça veut dire être une église verte, être éco-responsable, consommer de façon responsable. Pas seulement à cause des problèmes climatiques et des catastrophes, mais aussi à cause de notre responsabilité en tant qu'être humain, de prendre soin de notre monde et du prochain. Alors, la convoitise, c'est ce que Jacques reproche à ses lecteurs. Et vous l'avez probablement remarqué, cette convoitise, elle est associée à l'égoïsme. Au verset 1, je cite, « Les conflits viennent de vos tendances égoïstes ». Convoitisme et égoïsme, en quoi est-ce que c'est lié ? Pourquoi est-ce que Jacques les associe-t-il ? Simplement parce que ce sont deux façons de dire qu'on ne pense qu'à soi. Deux façons de dire qu'on ne pense pas aux autres, à notre prochain. Et ne penser qu'à soi, et le « que » a toute son importance, penser seulement à soi, c'est bien tout le contraire. Bien tout le contraire d'une vie vécue à la suite du Christ. C'est bien tout le contraire d'une vie d'amour envers Dieu et envers notre prochain. Et je ne vais pas faire toute la liste des façons d'être égoïste, ni donner une idée d'un titre pour un prochain livre du genre « Convoitisme et égoïsme, 10 clés pour réussir à penser uniquement à soi ». Mais j'aimerais juste vous laisser une idée qui rentre dans le contexte de cette lettre de cette épître de Jacques, c'est une idée spirituelle, celle du cœur, celle de ma vie spirituelle, ma vie avec Dieu. Et oui, parce que à force de parler de ce que je dois faire, ou ne pas faire parce que je suis chrétien, ou plutôt les choses que je devrais faire pour devenir un meilleur chrétien, eh bien, à force de parler de ces choses, à force de parler que je dois m'approcher de Dieu, et on le verra tout à l'heure, eh bien, on tombe à nouveau dans l'égoïsme, dans une sorte d'égocentrisme spirituel. Et peut-être même avec de la convoitise, de la spiritualité de l'autre. Et je vous invite vraiment à méditer sur cet égocentrisme spirituel qui nous guette tous. Parce que finalement, on est peut-être tellement occupé à savoir si on est conforme, qu'on en oublie qu'aimer Dieu, c'est aussi aimer notre prochain concrètement et vivre avec et pour lui. Mais malheureusement, les difficultés ne s'arrêtent pas là, dans le texte. Jacques, après avoir posé le constat, déroule. Il vide son sac un petit peu. Et il donne trois conséquences, trois situations dans lesquelles ses lecteurs se sont embourbés, semblent être coincés, trois conséquences de cette convoitise. La première, c'est ce groupe de gens, au verset 11 et 12, qui disent du mal des autres. Hein, frères et sœurs, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal de sa sœur ou de son frère dit du mal de la loi et la juge. Et dans ce cas, tu te fais le juge de la loi au lieu de la pratiquer. On juge au lieu de pratiquer la loi, d'aimer Dieu et son prochain. Le deuxième groupe auquel Jacques s'adresse, versets 13 à 17, ce sont les inconscients, les insouciants, ceux qui vivent leur vie sans penser aux autres, sans penser aux conséquences de leurs actes, sans même penser à ce qui pourrait leur arriver à eux. C'est Jacques, hein, qui dit, qui les cite en disant « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, etc. » Et Jacques leur dit « Mais votre vie n'est qu'un léger brouillard. » Et si donc une personne sait comment faire le bien et ne le fait pas, elle se rend coupable de péché. Jacques vient ici cibler leur insouciance de l'autre. Le troisième groupe auquel Jacques s'adresse, au verset 1 à 6 du chapitre 5, ce sont les riches malhonnêtes. Il le dit au verset 1, « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches. » Mais il précise, « Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les vers, et à cause de quoi ? À cause du fait qu'ils ne versent pas les salaires de leurs ouvriers. » C'est une injustice criante, dit Jacques. Une richesse mal acquise, une richesse malhonnête. Finalement, une richesse égoïste. Mais heureusement, les difficultés dans notre texte s'arrêtent là. Le constat est déjà tellement tragique pour une église. Et pourtant, qu'est-ce que ce texte peut nous révéler de la splendeur de l'Évangile, de la bonne nouvelle? Parce que oui, on a bien besoin d'une bonne nouvelle. On a bien besoin d'une bonne nouvelle quand on regarde à nous-mêmes, à nos difficultés quotidiennes, à nos souffrances, à nos périodes difficiles. On a bien besoin d'une bonne nouvelle quand on regarde autour de nous et qu'on voit tant de détresse, de misère, de méchanceté. Et puis on a besoin de bonnes nouvelles quand on regarde le monde dans lequel on vit et tous ces pays qui ne cessent de se battre, qui escaladent toujours plus les marges de la violence. Hein, tu vas m'envoyer des bombes, alors moi je vais t'en envoyer. Pure coïncidence avec les événements récents. Mais comment faire ? Comment faire finalement pour que les armes se taisent ? Pour que les conflits cessent. Parce que finalement, c'est bien ça que Jacques, tout au long de son épître, essaie de faire. Résoudre les conflits en proposant des solutions. Et quelles solutions donne-t-il? Il la présente au verset 6. Cependant, dit-il, la grâce que Dieu nous accorde est encore plus grande. Car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bienveillance. la grâce de Dieu est encore plus grande. Plus grande que quoi? Eh bien, plus grande que le constat de convoitise et d'égoïsme que Jacques pose chez ses lecteurs. Plus grande que l'orgueil, plus grande que le mauvais jugement de l'un sur l'autre, du premier groupe, hein, plus grande que l'insouciance de Dieu et de l'autre, pour le deuxième groupe, plus grande que la malhonnêteté, pour ces riches du troisième groupe. La grâce de Dieu est plus grande. Elle est plus grande. Car Dieu, finalement, n'en a que faire de notre égoïsme passé. Il n'en a que faire des efforts que nous faisons au quotidien pour être un peu moins égoïste. Dieu nous apporte juste sa grâce. Certes, sa grâce nous transforme. Sa grâce nous donne des principes de vie qu'on peut appliquer à nous-mêmes. Mais pourquoi? Et une façon d'expliquer la grâce de Dieu, c'est le Christ lui-même. C'est le fait que Dieu, malgré notre rébellion, soit quand même venu s'incarner, soit quand même devenu un être humain, semblable à nous, qui est venu et qui est allé jusqu'à mourir et ressusciter pour nous, justement pour qu'il n'y ait plus de condamnation. Et le Christ, on le sait, a aussi vécu une vie juste, une vie qui nous fait toujours réfléchir sur nous-mêmes et sur notre propre égoïsme, sur notre convoitise, notre jugement de l'autre, notre conscience de Dieu et des autres, sur nos richesses et nos modes de consommation. Mais il a surtout vécu une vie résumée en deux points. Aimer Dieu et aimer son prochain. Il a surtout vécu une vie d'amour qui nous invite d'abord à recevoir cet amour, bien sûr pour le donner ensuite et le partager autour de nous. Un amour concret, pas que théorique. Et la suite du verset est tout aussi belle. Et elle s'insère parfaitement dans ce texte. Et elle agit un petit peu, vous savez, comme une clé de lecture. Quelque chose qui éclaire la lecture de ce passage. Et je cite l'apôtre Jacques qui dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bienveillance. » Ou on pourrait traduire aussi « Mais il donne sa grâce aux pauvres. » Est-ce que c'est pas magnifique, l'évangile, quand même? Est-ce que c'est pas vraiment une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont eu que des mauvaises nouvelles toute leur vie durant. Ou presque. Et dans notre texte, c'est encore plus clair puisque Jacques associe les orgueilleux, les égoïstes, les insouciants, aux riches. Et là, dans notre verset clé, il dit que Dieu donne sa grâce aux pauvres, à ceux qui n'en reçoivent pas de ces riches orgueilleux, de ces riches malhonnêtes. C'est comme un renversement de valeurs. C'est la justice de Dieu qui s'applique. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu n'accorde pas sa grâce aux riches, comprenez-moi bien, mais ça montre plutôt son désaccord avec ces riches qui deviennent riches en exploitant les plus pauvres. Ces riches qui deviennent riches en ne pensant qu'à eux-mêmes et en ne se souciant pas des autres. Ce sont ces riches orgueilleux que Jacques vise ici. Alors, il ne précise pas qu'est-ce qu'être riche, et quelque part, ça nous invite à le penser et à le laisser à notre réflexion. Alors oui, c'est vrai, Jacques parle aussi du fait de s'approcher de Dieu. Mais il ne faudrait pas le comprendre comme un préalable nécessaire au fait que Dieu lui-même s'approche de nous, comme le verset 8 pourrait le laisser entendre. Et on comprend d'ailleurs peut-être mieux ce verset si on le traduit ainsi. Approchez-vous de Dieu, ou venez près de lui, venez pour le suivre, et il s'approchera, et il sera proche de vous. Dans le style, on n'est pas loin d'une lapalissade, vous savez, quand on dit par exemple, je vais sortir dehors, après le culte, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où on peut sortir que dehors, ou je vais monter en haut, on a presque un haut en trop à chaque fois. Et avec Jacques, c'est un peu pareil, mais quelque part, il insiste sur le fait que, en précisant que Dieu s'approchera ou qu'il sera proche de nous, il assure ses lecteurs la présence de Dieu. Rassurer que oui, suivre Jésus, ce n'est pas être comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et qui disparaît ensuite, comme il disait de ses insouciants au verset 14. Suivre Christ, c'est du réel. Suivre Christ, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. C'est vivre non pas seulement pour soi, mais en faveur des plus pauvres, des plus défavorisés. Et suivre Christ, c'est aussi accepter son invitation. C'est accepter sa grâce, ce cadeau qu'il nous fait de vivre avec nous. Malgré notre orgueil, notre convoitise, etc. J'aimerais simplement nous rappeler que si nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est bien parce qu'il s'est approché de nous en premier. Écoute cette parole dans la première épître de Jean qui dit que nous pouvons aimer parce que lui, le Christ, nous a aimés en premier. Si nous pouvons suivre le Christ, que ce soit depuis 50 ans ou depuis quelques semaines peut-être, c'est bien parce que lui est venu en premier, par amour pour nous. Alors tous ensemble, en communauté, en église, mais aussi individuellement, approchons-nous de Dieu car il s'est approché de nous. Continuons à suivre le Christ sur cette route de l'amour du prochain, sur cette route du don de soi, sur cette route de la générosité, sur cette route du pardon, de l'acceptation de l'autre, sans regarder à son extérieur ou comment il vit. Continuons à suivre le Christ sur cette route de l'accueil inconditionnel de tout prochain. Sur cette route, certes parsemée parfois d'embûches, de conflits, parfois provoquée par notre propre égoïsme. Mais malgré tout, continuons à suivre le Christ sur cette route d'amour et de grâce. Amen.